RMC jusqu'à 21h. Intégral Sport, Martial Fernandez.
L'intégral tour comme tous les jours, journée de repos ou pas, on est là, Luc Leblanc avec nous et Thierry Bourguignon pour répondre à vos questions au 32-16 ou sur le hashtag RMC Live, journée de repos des 179 coureurs du Tour de France du côté de Besançon. Thierry Bourguignon toujours là pour sa longue journée, à lui aussi. Bonsoir Thierry.
Bonsoir. Et journée de repos qui n'est absolument pas de repos, mais on s'en plaint pas.
Et les auditeurs qui sont déjà là du côté du 32-16, on est avec Bernard. Bonsoir Bernard.
Bonsoir Bernard. Bonsoir.
Bernard, c'est toi Bernard.
Bonsoir Bernard.
Bonsoir Bourgui. Bonsoir Luc Bourgui. On se connaît, on s'est croisé sur l'autoroute il y a 2-3 ans de ça. Je sais pas si
vous en rappelez. Bon. Vous êtes croisés sur l'autoroute dans le même sens, alors vous alliez quand même, parce que sinon c'est compliqué.
Non, mais on s'est croisés dans une cafette, monsieur.
Ah oui.
La Leloup Coco. Je sais pas si vous en rappelez. Bref.
Ouais. Je m'en souviens bien.
C'était donc Bernard Thierry.
Et comme on est au pays de l'horloge à Besançon, moi je voulais poser une question à propos du contre-la-montre qui est loin, mais juste voilà savoir combien de temps il faut prendre sur les meilleurs là maintenant dans les Alpes, dans les Pyrénées pour éventuellement garder le maillot après le contre-la-montre quoi.
Juste Thierry, avant que tu répondes, je vais juste repréciser que le contre-la-montre c'est le samedi avant l'arrivée sur les Champs-Élysées, Pergerac-Périgueux, et c'est 54 km. Hein.
Oui,
voilà.
Oui, mais c'est ça. Mais
et c'est qui par rapport à qui? Parce que
alors moi je voudrais savoir. Bon, on parle de Nibali, de Porte, bien sûr. Mais si par exemple on prend un Bardet, un Thibaut Pinot, qui sont pas forcément des grands rouleurs, combien il faut qu'ils aient d'avance avant Bergerac, quoi? Est-ce qu'il faut arriver avec 5 minutes? Est-ce qu'il faut arriver avec 3 minutes? Est-ce qu'ils vont perdre 1 minute aux 10 kilomètres? C'est vallonné, ça monte, ça descend, je sais pas. Donc j'appelle les experts dans ces cas-là.
Les experts.
C'est toi l'expert, Thierry, parce que Lucho, il va arriver dans quelques instants.
Ben alors, l'expert que je suis... Merci de ce terme, mais Bardet. Imaginons que Bardet arrive ce jour-là avec le maillot jaune, hein, c'est ça.
Et on va prendre cet exemple-là.
Et combien de temps? Alors, je dirais par rapport à Nibali et des Portes, je pense qu'il peut perdre. Romain très motivé. Je pense que devant le public français, il peut bien perdre 3 minutes, entre 3 et 4. Hein.
Ah, c'est beaucoup. Hein.
Et oui.
Et Thierry, je te repose la question de façon différente. Si on garde le classement général d'aujourd'hui, est-ce que Richie Porte, qui est quand même pas mauvais en contre-la-montre, peut reprendre 2 minutes 23 à Nibali?
Non, je pense pas.
Si Nibali a le maillot jaune, non.
Je ne pense pas. Nibali n'est pas mauvais en chrono, et avec le maillot, on sait très bien que on arrive à aller chercher des ressources énormes. Donc je pense pas. Après ça va se jouer très peu, mais bon, d'ici là, il y a les Pyrénées, il y a les Alpes et les Pyrénées qui vont faire encore un peu plus de différence dans un sens comme dans l'autre. Hein. Mais sur ce qu'on a vu, de toute façon. Sauf gros problème pour Nibali, moi je vois mal Nibali perdre son maillot. Hein.
Mais Bourgui, si on prend le classement et puis que mettons je dis jamais 203.
Ouais.
Donc on a 203.
Oui, j'y ai pensé aussi. J'y ai pensé au dicton français.
On se retrouve avec Richie Porte, premier, Valverde à 24 secondes, Bardet à 38, Galopin à 49. Et après, on est au-dessus de la minute pour Pinot, Van Garderen. Bon, ça se tient jusqu'à Vandenbroek. On est à 2 minutes. On est dans les 2 minutes.
Oui, aujourd'hui.
Aujourd'hui.
Mais c'est pareil. Je dis aujourd'hui, Nibali est un ton au-dessus de tous ceux que tu viens de citer. Donc, si on enlève Nibali, il y aura une belle bataille dans les Alpes et dans les Pyrénées. Qui donnera qui devant ça je peux pas franchement le dire.
On va
à ce niveau-là les Français ont largement leur place, c'est clair.
Merci Bernard de nous avoir appelé au 32-16. N'hésitez pas à nous appeler, vous avez aussi le hashtag RMC Live. On a aussi Luc Leblanc qui vient de
arriver. Je suis un peu partout, je cours partout là.
son incroyable journée marathon continue, Luc, et nous on accueille Bruno 32-16. Bonsoir Bruno.
Bruno. Bonsoir Thierry, bonsoir Luc.
Bonsoir Bruno.
Oui, bonsoir. Donc moi j'appelle par rapport à Romain Bardet, par rapport à ses capacités au contre-la-montre. Le risque, est-ce qu'il n'a pas un risque, est-ce qu'il peut progresser dans ce domaine-là?
Tout le monde peut progresser. Après, Bardet est jeune encore. Il peut largement progresser. Romain, sa spécialité, c'est l'école, c'est la montée, c'est un puncher. Après, je ne sais pas vraiment où l'on peut le situer par rapport à tous ceux qu'on a dans les 10 premiers du classement général. Je ne sais pas.
Luc ?
Oui, mais moi je pense que Romain a des prédispositions dans le contre-la-montre. Bien sûr, c'est peut-être pas du niveau de Nibali, de Valverde ou de Richie Porte, mais je crois qu'avec une confiance, et s'il est placé au classement général, parce que il faut savoir une chose, c'est que le contre-la-montre du Tour, qui se situe la veille des Champs-Élysées, c'est pas du tout la même chose qu'un contre-la-montre que tu prends en début de Tour. Donc il va falloir voir les facultés de récupération de Romain Bardet sur la dernière semaine du Tour, et pourquoi pas le samedi, avant dernière étape, il peut se passer plein de choses, et là c'est vraiment sur la récupération. Alors à partir du moment où Romain Bardet aura bien récupéré dans la dernière semaine, il est capable de faire de belles choses dans le contre-la-montre.
Mais on verra les écarts aussi d'ici là, parce que
c'est souvent
journées de repos où on s'interroge toujours sur ce contre-la-montre de fin de Tour, parce que c'est vrai que le Tour est souvent fait comme ça.
Oui, c'est vrai. Mais... bon, avec Thierry, quand on faisait le Tour, il y avait deux chronos. Hein. Il y avait un prologue, il y avait même un contre-la-montre par équipe, il y avait un premier chrono individuel et un deuxième sur la dernière semaine. Ça faisait quand même beaucoup de chronos. Ça faisait plus de 100 km de chronos à un moment donné. Donc c'est vrai que là...
C'est mieux comme ça, Luc, tu penses ?
Moi, je trouve que c'est mieux. Ça, il y a plus de suspense, parce que un coureur qui est capable de gagner le Tour, comme l'a fait ces dernières années, on parle de Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, et bien d'autres, Miguel Indurain. C'était quand il y avait 2-3 chronos sur le Tour. Ils assommaient déjà le Tour dès le premier chrono, quoi. Et on savait que déjà dès le deuxième, ils allaient encore assommer le Tour. Donc c'est vrai que à partir du moment où il reste plus qu'un chrono la veille de l'arrivée finale, ça donne un petit peu plus de piment à la course, c'est certain.
Thierry, qu'est-ce que t'en penses ?
Moi aussi, parce que j'ai toujours dit que dénoncer que le chrono a assommé le Tour. On l'a vu les dernières années avec les Sky qui prenaient le maillot à ce moment-là et qui écrasaient tout. Armstrong, même si on l'a rayé des listes, il a gagné tous ses tours comme ça. Et le grand Miguel Indurain, il faisait la même chose. Donc c'était des purs spécialistes, des gros rouleurs, et après ils géraient leur tour par rapport aux écarts qu'ils faisaient sur ces chronos. Donc ça ouvre un peu plus la porte à un coureur qui a de petites lacunes en chrono.
Bruno,
je dis bien de petites lacunes, même si c'est dur de gagner un tour sans être performant dans tout. En fait, faut être un vrai polyvalent, monter, et Nibali l'a bien montré, même sur les pavés, il était là et il a su gérer correctement les pavés. Sur le plat, il y a pas de problème, et en bosse, il excède.
Bruno, toi qui nous as appelé au 32-16, ton avis sur ce type de parcours moderne, on va dire, du Tour de France avec moins de contre-la-montre qu'avant ?
C'est déjà plus spectaculaire. Déjà, on voit mieux le talent de chacun, parce que quand on voyait, comme il disait Lucho et Thierry, concernant le contre-la-montre prologue, contre-la-montre par équipe, quand il y avait 100-120 km dans les 3 semaines, c'est sûr que les spécialistes, ils seraient allés là-dessus. Là, il y a beaucoup plus de suspense. Il faut être polyvalent, bon rouleur, éviter les coups de bordure, être bon à la montagne. Donc voilà, c'est plus spectaculaire et c'est plus plaisant à regarder.
Et c'est surtout plus serré aussi. Il y a encore des écarts très 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 infimes dans ce classement. Merci Bruno de nous avoir appelé.
Est-ce que je peux faire un petit message ?
Rapidement Bruno.
Alors ça sera pour Thierry Bourguignon, un grand coucou de toute la Matésine.
Merci.
T'as compris Thierry.
Merci. Oui, je suis originaire du plateau Matésin, au-dessus
de la Mure.
Voilà, de la Mure. La Mure qui a accueilli le Dauphiné libéré cette année.
En Isère, la Mure.
Oui, c'est
exactement.
Ça. C'est ça.
Merci Bruno de nous avoir appelé au 32-16. On va accueillir Guy maintenant qui est avec nous. Bonsoir Guy.
Oui, bonsoir Lucho.
Bonsoir, bonsoir Guy.
Oui, j'appelle là parce que tout à l'heure il y a un auditeur qui a appelé, qui a interpellé Cyril Guimard au sujet de la chute de Contador. Ils sont intervenus sur un trou sur la route.
Oui, un petit trou.
Un petit trou sur la route, oui. Et comment Cyril, lui, a dit non, non, les routes sont bien entretenues et tout ça, il n'y a pas de problème, non, 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 non. Et je dois quand même dire que je suis quand même un cycliste qui fait environ entre 8 et 10 000 km par an. Et effectivement, je m'aperçois que les routes sont de plus en plus mal entretenues. Il y a des trous, c'est incroyable.
Ouais, mais alors moi pour confirmer
toi qui as roulé ce matin Lucho.
Ouais. Non non non, mais il y avait un trou quand Contador est tombé. Ah. Il a lâché son guidon pour prendre se ravitailler tout ça et à un moment donné il a pris le trou et c'est ce qui voilà. Et mais pourquoi Cyril a dit qu'il y avait pas de trou?
Non, Cyril a dit que c'était un petit trou.
Un petit trou. Ouais, mais même un petit trou, ça dépend ce qu'on appelle un petit trou,
c'est
quoi.
La
voilà.
Aussi,
c'est la vitesse, ouais.
Il était sur le bas-côté, on sait pas tout.
Il était déséquilibré.
On a pas vu les choses, hein. De toute façon, c'est un manque de chance.
Après, pour l'entretien des routes, c'est peut-être un manque de moyens des collectivités aussi de refaire tout le temps toutes les routes. On a tellement de routes en France, départementales, nationales, les gens passe, c'est vrai que c'est pas facile à entretenir tout ça quand même.
Non mais c'est sûr, c'est vrai, c'est sûr, c'est pas facile à entretenir, mais quand on voit, par exemple, j'ai fait au mois de mai le tour du lac Léman, hein, qui part de Suisse et puis qui revient en Suisse, à partir du moment où on passe la frontière française, on s'aperçoit qu'on est en France, avec l'état des routes, c'est incroyable. Même s'il n'y a pas de poste frontière, on s'aperçoit qu'on est encore en France. Et quand on en sort, on s'en aperçoit aussi.
Ouais. Bon, c'est la difficulté du cyclisme, hein. Il n'y a pas que la France, hein. Vous allez en Espagne, en Italie, ou vous allez en Belgique. Tiens, vous allez faire les classiques en Belgique, vous allez voir.
Les dalles en béton, elles sont pas mal.
Les dalles en béton, elles sont pas mal. Et puis ça fait t'attends.
Non, mais bon, ça, c'est. Hein? Et là, il peut arriver, mais bon, généralement, c'est vrai que les courses empruntées par le Tour de France sont un peu inspectées et regoudronnées si elles sont très mauvaises.
Merci Guy de nous avoir appelé au 32-16.
Bon appétit Guy, je crois que vous étiez dans les couverts, dans les assiettes là.
Oui.
Bon appétit, merci.
Bon appétit.
À bientôt. Le 32-16, vous êtes ouvert, n'hésitez pas à nous appeler. Il y a aussi le hashtag RMC Live et on a une question de Anto ASNL. Il nous parle de Valverde, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Est-ce qu'il peut espérer le top 3, voire mieux, messieurs? Alejandro Valverde, troisième pour l'instant.
Il nous a tellement déçus par le passé.
Oui, alors juste, pour revenir à sa performance. L'an dernier, il a été, je crois, pris à un moment, il a perdu du temps sur une étape sans grande difficulté. Il a pris du retard et il n'a jamais pu combler ce retard. Il avait Quintana devant aussi, mais il avait quand même fait un bon tour en étant longtemps avec les meilleurs, même dans les grandes étapes de haute montagne.
Hein. Ah, mais de toute façon, Valverde, c'est pas le dernier des mauvais. Il fait partie quand même des outsiders de ce tour, comme l'était Contador, bon, à un niveau un peu en dessous, mais ça reste le podium reste vraiment ouvert puisque on a perdu Froome et Contador aujourd'hui, et là on voit si on regarde le classement général à l'heure actuelle, Richie Porte qui est le lieutenant de Froome à deuxième place, Valverde troisième, après Bardet, Galopin, Pinot, Vanguard de Rennes, Perrault, Costa Rica.
Ouais, mais enfin, on parle de Valverde là. Valverde,
ça fait partie. Il fait partie comme beaucoup d'autres des gens avec le potentiel de monter sur le podium largement même, je dirais. Aujourd'hui, avec
l'absence
de Froome.
C'est vrai que quand tu regardes sur le papier, Valverde fait partie des grands prétendants, quoi.
Ah bah oui.
Hein, ça c'est
surtout
sûr.
Surtout qu'aujourd'hui,
après il y a l'approche des Pyrénées. L'approche des Pyrénées. Après, il faut voir parce que les Pyrénées c'est quand même proche de l'Espagne, donc il aura pas mal de supporters. Ça peut le transcender aussi là-bas.
Bon, les Espagnols ont toujours fait des trucs dans les Pyrénées plutôt que dans les Alpes. Ouais, ils se réservent.
Mais déjà les Alpes c'est quand même moins dur cette année que les autres années, donc ils risquent de passer quand même comme il faut, je pense, hein, les Alpes, hein, Thierry.
Il n'y a pas grosse difficulté dans les Alpes, hein. Il y a une étape de col, Risoul, celle d'avant, il y a Champs-Rousses, mais même la montée de Champs-Rousses, c'est pas forcément très très dur, c'est le col d'avant, le Palaki, qui est un petit col, qui a de forts pourcentages, hein. Ouais. Attention à celui-là.
On a donc Benoît au 32-16. Thierry et Luc, bonsoir Benoît.
Bonsoir, j'aimerais spécialement poser une question à l'Arédien, s'il se reconnaît.
Oui, c'est moi.
Luc Leblanc.
Oui, Luc, ne pensez-vous pas que ce Tour de France est un Tour de France anarchique? Il n'y a plus de grand patron, donc ça va flinguer à tout va, je pense.
Mm-hmm. Et comme ah ben, écoute, ouais, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux qu'il n'y ait pas de grand patron. Au moins, comme ça, on va pas s'ennuyer jusqu'au 27. Non, mais, ouais. A priori, bah, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de grand patron sur le tour.
Depuis,
ouais, mais bon, moi,
je verrais plus
l'ère Bernard Hinault, quoi, où c'était vraiment le véritable patron, qui tapait sur la table quand il fallait. Après, c'est vrai que, bah, de voir un petit peu, un tour un petit peu anarchique, comme ça, où il n'y a pas de patron, où tout le monde peut se dire, bah, tiens, c'est ma journée, le lendemain c'en est un autre. Oui, mais je pense qu'il va y avoir de l'action, et puis à la limite c'est pas plus mal, quoi. Parce que des fois, certaines années où il y a eu un véritable patron, c'est quand même pas mal ennuyé.
Donc là, vous êtes ennuyé alors, Luc?
Moi je me suis ennuyé. Non, parce que Miguel Indurain c'était pas un véritable patron, quoi. Non, mais je veux dire, sur la course et tout, ouais, tenez la course, mais ceci dit, quand on attaquait et tout, c'était pas le blaireau qui dit, tiens, il allait chercher le mec, il dit, tiens, bon, maintenant tu restes à ta place et tu partiras quand je te le dirai. à peu près comme ça, quoi. Miguel, c'était quelqu'un de plus effacé. Quand on était échappé avec Miguel, si on avait envie d'attaquer, on attaquait, quoi. Après,
il était patron par la force des choses.
Voilà, il était
par
patron
la
par la force des choses, par la force des mollets.
De façon générale.
Mais je me souviens, en 96, quand il a perdu son tour, c'était la première année où il a explosé. Quand j'ai attaqué dans les arcs et que j'ai gagné les arcs, c'est la première année où il avait perdu le Tour de France, où il a fini, je crois, sixième du tour cette année-là, je crois.
Onzième
peut-être, t'as raison Thierry. Mais voilà, il a perdu le tour cette année-là, mais il n'est pas venu me chercher, ou il n'est pas venu me voir à l'arrivée. Il m'a dit, mon garçon, la prochaine fois, tu restes en place. Non, non. Voilà. C'était pas un véritable patron comme les autres, comme ses prédécesseurs.
Mais Armstrong, vous le considériez pas comme un vrai patron quand il tapait du poing sur la table?
Ouais, mais moi j'ai pas couru avec lui. Et de toute façon, même il aurait tapé du poing sur la table, j'étais pas de nature à me laisser faire. Et quand j'avais envie d'attaquer, j'aurais attaqué quand même. Je veux dire,
le seul patron,
celui qui me commandait, c'était mon manager, mon directeur sportif d'équipe. Après le reste, voilà, je veux dire, les patrons dans le peloton, il pouvait y en avoir, mais moi, ouais, j'ai mon caractère comme d'autres, hein, certainement, et qui ne se serait pas laissé faire par l'ancien Armstrong, hein, du tout. Ah. Après, bon, bah, c'est sûr qu'à la pédale, j'en sais rien. Hein, je sais pas, mais il m'aurait pas empêché d'attaquer. Ça, c'est clair.
D'accord.
Oui. Ah bah oui.
Quand même. Embêté un petit peu. Mais de toute façon, il a jamais interdit non plus à personne, à quiconque, d'attaquer. Il a posé problème à certains qui avaient attaqué quand monsieur ne voulait pas.
Non, mais il fallait pas se laisser impressionner. Voilà. Quoi, voilà. Fallait pas se laisser impressionner par l'ancien Armstrong. C'est tout. Mais après, bon, certainement qu'il respectait ses adversaires, hein, à partir du moment où tu te laisses pas faire et tu te laisses pas impressionner, voilà, quoi. Puis bon, c'est dans la vie de tous les jours aussi, hein.
Merci Benoît de nous avoir appelé au 32-16.
T'es arédien, Benoît?
Ah, Luc, je travaillais il y a peu de temps à Saint-Thierry-la-Perche.
Ah, voilà. Eh oui, parce que c'est donc, mes 20 ans, c'est pour ça, dans le 23 août prochain.
J'étais à l'hôtel.
20 ans,
à l'hôtel,
les 20 ans
que tu connais très, très bien.
Oui.
À l'hôtel où tu te connais très, 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 très bien. Place. Ouais.
D'accord.
Voilà. Donc, et en même temps, je te souhaite une très bonne journée pour le mois d'août.
Oui, merci. C'est gentil. Merci.
Voilà.
Et n'hésite pas à venir si tu es présent. Merci.
D'accord. Merci.
Salut Benoît. Salut Benoît qui nous a appelé au 32-16. On accueille Bertrand maintenant qui est avec nous. Bonsoir Bertrand.
Bonsoir messieurs. Salut Tcho. Salut Bourgui.
Bonsoir. Salut. Bonsoir.
T'as une petite question. Alors, sur Nibali, Bertrand.
Ouais, je vous appelle pour. Moi, je suis persuadé. Je vous mets un billet que Nibali gagnera pas le Tour de France.
Ouh.
Voilà.
Alors là, on enregistre Bertrand.
T'as de l'argent à perdre comme ça, toi?
Eh ouais, mais où a gagné?
Qu'est-ce qui te fait, non, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que c'est facile de dire oui, ça va perdre, oui, il va gagner. Et dis-moi un peu ce qui peut te faire penser que Nibali peut perdre le tour.
Voilà, je pense que pour Nibali, le fait qu'il n'y ait plus Contador ni Froome va rendre la course pour lui beaucoup plus compliquée à gérer. Moi, j'entends depuis hier les coureurs entre la deuxième et la dixième place qui jouent le podium, qui disent que la première place est déjà perdue, qu'on va jouer la deuxième, la troisième place. Mais moi, j'y crois pas. Je crois que c'est de la grosse langue de bois. Nibali a gagné le Giro, il a gagné la Vuelta, mais je pense qu'il n'a pas le même aura, ni la même. Les gens n'ont pas la même crainte ce que pourrait être Contador, un Froome ou Armstrong dans les années passées. Je pense qu'ils vont l'attaquer parce que je pense que Nibali, c'est un coureur sympa. Il est sympathique auprès des gens ou auprès des autres coureurs, mais je pense qu'il sera pas respecté en tant que coureur dans la course et il aura beaucoup de mal à contrecarrer des coureurs qui sont derrière. Je pense qu'il y a beaucoup d'ambition sur ces coureurs, pour ces coureurs là. C'est l'année ou jamais.
Mais il va falloir qu'il ait une bonne équipe, hein, quand même. De toute façon, déjà, ouais.
Ah, mais c'est clair que ça va être très dur pour lui de gérer tout ça, parce que tu l'as dit, tout le monde tout le monde se dit que c'est l'année ou jamais. Donc, ils vont tous essayer d'attaquer. Maintenant, est-ce que comme par le passé, parce que là aussi le passé a parlé dans ce sens, est-ce que tous les coureurs vont attaquer, mais les autres vont courir après ces mêmes coureurs, c'est-à-dire que le deuxième va courir après le troisième et le quatrième
aussi, hein,
s'il court bien, je pense que ça va faire la même chose, parce que Armstrong a bénéficié de tout ça, Froome aussi, on le voit, hein, dès que le général est un peu fait, et ben de suite on laisse pas la responsabilité au maillot jaune.
Il est certain qu'il y a des grands champions qui ont eu des circonstances de course qui leur favorisaient. C'est sûr qu'il y en a qui couraient après la deuxième place, après la troisième place. Mais je vois aussi dans le classement qu'il y a 4 Français. Il y a 4 Français dans les 10. Je pense aussi,
malheureusement, tu peux enlever Tony Galopin quand même, parce que Tony, il fait beaucoup là, mais c'est vrai que dans les Alpes, il risque de prendre.
Oui, mais il y a un Pierre Roland qui est 16e, un Gauthier qui est 18e.
Oui, mais Pierre Roland, il attaque un jour et le lendemain, il se fait lâcher.
On est d'accord, mais ce que je pense, c'est que les premiers peuvent éventuellement, par des circonstances de course, avoir une coalition entre Français. J'en suis persuadé.
Il va y avoir une bataille entre les Français pour le premier Français déjà.
Merci beaucoup Bertrand de nous avoir appelé au 32-16. C'est comme ça tous les jours, 20h-20h30 avec Luc Leblanc, Thierry Bourguignon. Ben voilà, messieurs, c'est fini pour aujourd'hui.
C'est fini.
On se retrouve demain avec une étape.
On verra.
Demain.
Juste une petite info, je voulais faire un tout petit clin d'œil.
Oui.
Parce qu'il y a Thierry Barrault, l'ancien professionnel.
Ah, Thierry.
Qui est décédé le jour de son anniversaire, le 13 juillet.
Dimanche.
Je voulais faire un clin d'œil à Thierry.
T'as bien fait, Thierry.
Et souhaiter condoléances à toute sa famille et ses proches.
Il a couru avec mon frère Eric à la Redoute. Au vélo club de Roubaix, c'était l'antichambre de la Redoute Motobécane à l'époque.
Merci messieurs, voilà. Et je donne aussi une petite information qui concerne Alberto Contador qui ne sera pas opéré. Il a vu les médecins du Real Madrid et qui ont dit qu'il n'y aurait pas besoin d'intervention chirurgicale, mais qu'il devrait sans doute vraisemblablement renoncer à la Vuelta.
Dommage. Voilà. On aurait pu voir un Contador Froome sur la Vuelta, ça aurait été sympa.
Merci beaucoup Luc, merci beaucoup Thierry, à demain messieurs. Et nous on va continuer l'intégral sport jusqu'à 21h, le foot, l'information de la soirée, c'est Lens qui n'a plus le droit de jouer en Ligue 1, interdit de jouer en Ligue 1 par la DNCG. Lens qui avait gagné sportivement le droit en terminant dans les 3 premiers du championnat de Ligue 2, et bien la DNCG a décidé de ne pas les intégrer au championnat de Ligue 1. Lens qui fait quand même appel auprès du CNOSF, on en parle dans quelques instants avec Marion Fournet. Je vous donne aussi une information foot qui vient de tomber. C'est Antonio Conte qui n'est plus l'entraîneur de la Juventus. À tout de suite.